Vous écoutez France Inter et c'est le best-of de Par Jupiter avec vous, Alex Vizorek.
Merci Alexandra Dubouchereau et restez à l'écoute de Par Jupiter car cette semaine c'est souvenir, souvenir. Et oui, les florilèges d'hiver vous emmènent au pays des archives de Par Jupiter et de Si tu écoutes, j'annule tout. Direction avril 2015 pour un retour en enfance. C'est vraiment une de mes idoles de jeunesse. C'est un musclé. Voilà. Et un certain Richard Lornac, pianiste de France Inter bien sûr, mais aussi de Dorothée, nous avait fait la surprise de débarquer en conférence de rédaction pour nous présenter cet invité exceptionnel. Salut Richard.
Oh, Alex, comment vas-tu?
Bah bien, mais je viens parce qu'en fait on reçoit un de tes meilleurs amis, on reçoit Bernard Minet. Alors, oh, je voulais quelques infos quoi.
Bernard Minet?
Ouais.
Alors attends, qu'est-ce que tu veux savoir?
Eh bah tout.
Eh bah écoute, je peux te raconter le séducteur que c'était. Après les concerts, il a ramené toutes les gonzesses à l'hôtel. Il leur faisait notamment...
Non, ça, vraiment, ça, je veux pas savoir.
Ah bon? Parce que franchement, je l'ai déjà vu nu.
Ouais, et alors?
Et bah par rapport aux autres...
Non.
Il était vraiment... musclé.
Non, mais écoute, on est sur France Inter, c'est gênant de parler de ça. Mais qu'est-ce qui lui ferait plaisir?
Alors, Bernard, ce qui lui plaît beaucoup, en général, c'est quand les gens connaissent ses chansons.
Alors là, aucun problème, je connais tout son répertoire. Regarde, Bernard Minet, Capitaine Flamme, tu
Alex.
C'est pas le bon ton, j'étais pas le...
C'est pas ça, c'est que ça, c'est pas du Bernard Minet.
Ah, c'est pas du Bernard Minet. Bah, je joue n'importe quoi, je te le suis, c'est du Bernard, je connais tout Bernard Minet.
Ok,
je
joue.
Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. Oh, je suis bon, je connais tout Bernard Minet.
Vas-y.
Me moitié robot, le plus valeureux des héros. Bioman, héros de l'univers. Oh, je suis bon.
Très bien.
Tout Bernard Minet, ouais.
Une autre, allez, plus dur.
Plus dur, ok, je suis prêt. À l'école des champions, te battre avec passion et donner tout ton cœur pour devenir enfin le meilleur. Oh, je connais tout Bernard Minet, je suis bon.
Encore plus difficile.
Vas-y. Attends, je la connais, ça. C'est pas Sailor Moon, c'est pas Dragon Ball. Attends. J'y suis. Ok, vas-y. Dans 150 ans, s'en souviendra pas de la vieillesse qui prend. Richard, c'est pas du Minet?
Bah, bien sûr que c'est du Minet.
Bah, mais non, Richard, c'est du Raphaël.
Bah, et Raphaël, c'est quoi? C'est un Minet. Je suis bon sur ce coup-là, non? un Minet.
Ouais, t'es bon, ouais.
Tu trouves aussi?
Bonjour la France Inter, et oui, moi aussi j'aurais pu faire une énorme carrière de chanteur, mais voilà, j'ai été brimé, bridé, ici on ne m'autorise qu'à faire des blagues, et occasionnellement à choisir mes florilèges, et coup de bol, ça tombe cette semaine. En deuxième partie, je vous ai sélectionné Marie Gilin, on l'adore dans l'équipe de Par Jupiter, on parlera de nombreuses choses, mais surtout, on lui fera faire son célèbre accent liégeois. Attention à vos oreilles, mais tout de suite, vous l'avez entendu dans la conférence de rédaction, place à notre bioman préféré, Bernard Minet.
France Inter, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bernard Minet est parmi nous.
Eh bien, bonjour à tous, les amis, vraiment. Moi, je suis hyper content. J'ai eu mes deux idoles en deux jours. Vincent Delerm et Bernard Minet aujourd'hui.
Alors, je vais répéter ma blague, parce que personne ne l'a entendu.
Pardon.
Chalut.
Ah oui, mais pour le Minet, c'est fait.
Merci. Ouais,
c'était pas obligatoire, Clara.
Oui. Ah, il y a Meurice qui est en ligne avec nous, c'est un cauchemar. On ne le voit pas et on l'entend.
Les amis, je voulais m'excuser.
C'est l'œil de Moscou.
Je voulais m'excuser parce que hier, je vous ai écouté et j'ai pas annulé.
Oui. Vous êtes le seul.
Mais vous pouvez faire des choses en nous écoutant, hein, Bernard Minet. Vous publiez Ma vie de folie aux éditions Mareuil. Et on y apprend donc que vous avez notamment accompagné Charles Aznavour, Nicole Croisy. On vous voit en photo avec Sheila et André Manoukian, vous allez nous en parler. Vous avez accompagné Richard Clayderman, tout cela en tournée mondiale. Et un jour, vous avez choisi, vous avez dû faire un choix cornélien, parce que vous êtes musicien, puis vous avez choisi la télé et Club Dorothée. Mais oui, mais alors, comment est-ce que vous avez fait ce choix et est-ce que ça a été difficile? Vous êtes monté dans un train quand même, dans un TGV.
Oui, mais une superbe aventure, c'est ça qui était... Je le savais pas, on le savait pas, et on savait encore moins à la fin du Club Dorothée 97, que je serai encore là aujourd'hui à vous parler de ça. Mais voilà, ça a été un choix. Voilà, moi j'aimais pas trop, vous savez, être à l'étranger. Avec Clayderman, c'était un concert tous les jours au Japon, donc on prenait le TGV local. Le soir, c'était les clubs sandwich. C'est vrai, non, mais je mangeais mal à l'étranger. Je faisais les régimes. Je m'ennuyais dans la chambre. J'étais pas un solitaire. Il n'y avait pas encore tout ça. Attention, on avait à peine les organiseurs, quoi. À l'époque, vous voyez, on n'avait rien.
Les organiseurs, c'est quoi déjà?
C'était les premiers pions, les premiers, tu sais, les
comme
premiers.
Comme des smartphones, mais ah, l'ancêtre oui. du smartphone.
Voilà, il n'y avait rien. Il n'y avait rien faire, non.
Il y avait des numéros de téléphone.
Non, même pas. Oui, oui, c'est ça. Et non, j'étais pas fait pour cette vie solitaire. Je suis pas un solitaire. Et je me trouvais très bien chez Mademoiselle Dorothée, parce que d'abord, vous savez qu'en émission professionnelle, ben, on tape ou on nous dit de faire. Non, mais je veux dire, c'était pour nous, c'était parfait. Il y avait une très bonne équipe, c'est très sympa. Azoulay, le producteur, était formidable. J'avais le sentiment que j'allais apprendre des trucs en restant là, apprendre des choses. Effectivement, j'ai fait des choses différentes. Donc voilà, ça, j'ai jamais regretté. Je suis très content de cette aventure.
C'était le premier boys band qui parlait.
Certainement, oui, oui, certainement.
Mais sur le coup, on se rend peut-être pas toujours forcément compte des choses, mais est-ce que vous avez réalisé à un moment que vous, du coup, vous resteriez comme l'empreinte d'une enfance pour toute une génération? Parce que nous, quand on nous dit Club Dorothée,
et la nôtre,
et bah, bien sûr, ouais. c'est ça reste pour nous un morceau d'enfance. C'est les mercredis après-midi, c'est les génériques qu'on a dans les oreilles. Vous avez réalisé ça à un moment, le poids que vous pouviez avoir dans la mémoire de quelqu'un?
À ce moment-là, pas du tout, ouais, pas du tout, parce que d'abord, la nostalgie n'existait pas. Elle existait pour nos parents, ouais. Vos parents, nos grands-parents, qui étaient eux nostalgiques de l'accordéon et de Tino Rossi. Exactement, c'est ce que je dis. Voilà, mais il n'y avait pas d'autres nostalgies, et ça arrivait en général à 40-50 ans. Mais il faut dire aussi que c'est la première fois où, enfant, on avait des émissions spécialement pour l'enfant à la télévision. Donc c'était un phénomène nouveau, cette nostalgie. Mais vraiment, pour moi, en 97, quand c'est terminé, bah, pour moi, c'est la fin d'une merveilleuse aventure et la fin d'une belle époque. Et jamais, au grand jamais, je pouvais penser que quelques années après, j'aurais chanté dans les boîtes de nuit.
Mais ça, vous l'expliquez, comment c'est revenu. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez un petit coup de fil du Queen.
Voilà.
Alors que vous vous demandiez bien ce que vous alliez pouvoir faire.
Oui, voilà, alors que je galérais un peu, parce que c'était la première fois où la chance m'avait un peu oublié, m'avait un peu laissé tomber pendant ces périodes-là. Et tout ce que j'entreprenais, ça souriait pas, quoi. C'est fou, hein.
Et ça arrive, je connais ça, moi.
Et un jour, j'ai un coup de fil. Bonjour Bernard Minet, oui. Voilà, je vous appelle, je suis un tel, directeur artistique du Queen. Je vous appelle pour faire une soirée, venir chanter 10 minutes. Alors là, moi, j'étais allé boire des coups avec André au Queen. Après le Zénith, il était fou, il m'emmenait là-bas sans arrêt.
Et non, mais vous avez travaillé avec Sheila notamment, André oui. Manoukian et Bernard Minet.
Et à cette époque-là, enfin, on allait boire des coups en fin de nuit. Voilà, et à cette époque-là, c'était assez hard, quoi. Les gars étaient en harnais, ils étaient habillés. Mais c'est vrai.
André notamment.
et non, André, c'était les slips avec le pont-levis qu'il aimait bien. Les slips en cuir avec le pont-levis. Vous savez, vous descendez, ça fait comme un pont-levis.
Alors. Oui. Le slip pour le vide, oui, je ne connaissais pas.
Richard Lordin qui vient t'asseoir à ma place.
Et alors, je dis, attendez, vous voulez faire un jeu de massacre, vous savez, j'ai pensé à ces chamboule-tout, là. Vous voulez faire un jeu de massacre avec moi? Non, pas du tout, monsieur Minet, c'est une soirée pour la chanson française. Et c'est là que ça a commencé, il y a eu 1700 personnes ce soir-là, il y avait même des gars qui avaient fait un drap Bernard, on t'aime, et c'était magnifique.
Tiens, alors, j'en profite pour rappeler que dans votre livre, vous dites, et ça a fait un peu de bruit, pour moi, si Madame Royale a perdu les présidentielles de 2007, c'est en partie à cause de ce qu'elle a fait à Dorothée, j'en suis persuadée.
Non, alors, ne rigole pas,
sorti du contexte comme ça.
Oui, oui, là vous l'avez un peu sorti, parce que d'abord c'est un chapitre complet qui est là-dessus. Il y a un chapitre complet qui s'appelle.
Parce qu'elle avait dézingué le Club Dorothée, oui, la violence dans les mangas, etc.
Qui s'appelle les japonaiseries ont vaincu Ségolène. Ça c'est le titre de mon chapitre. Et voilà, faut pas réduire ça comme ça. Mais vous savez, il y avait très peu de voix d'écart. Et je dis simplement qu'elle aurait pu être présidente si elle n'avait pas pris ça comme cheval de bataille contre le Club
Dire
Dorothée.
Dire qu'il y a une génération qui s'est sentie.
Ah mais moi c'est ce que j'ai constaté. Dans les messages à cette époque, il y avait pour moi 80% des jeunes du Club Dorothée qui n'allaient pas voter à cause de ça, qui pensaient que c'était à cause d'elle. Voilà pour ça.
Eh bien, je vous renvoie donc à Ma vie de folie pour lire in extenso cette déclaration fracassante.
Est-ce qu'on peut espérer que si par exemple elle remettait le Club Dorothée à l'antenne,
mais oui, mais c'est ça. Il faudrait aussi proposer ça, Monsieur le Président. Voilà. Je ne sais pas.
Si
voilà.
Vous
voilà. Allez, Bernard Minet, on va laisser la parole à votre camarade. Ah, si vous l'avez bien connu. André Manoukian.
Je vais vous parler d'une de mes chanteuses préférées. Elle s'appelle Rosemary Stanley et c'est la chanteuse du groupe Moriarty. Moriarty qui vient de sortir son nouvel album. Alors on va commencer un petit peu. Il y a une phrase que j'aime souvent dire, c'est que la musique est un fleuve. La musique est un fleuve parce qu'il y a, au début, il y a une histoire de linéarité, de continuité. Et finalement, un musicien de génie au sens étymologique du terme, un gars qui génère, qui crée, qui invente un style nouveau, comme Bernard Minet qui est à côté de moi, qui a inventé son style lui aussi, en fait c'est un gars qui est simplement sur la berge du fleuve, au bon endroit et au bon moment. Mozart, les Beatles, Bernard Minet, ne seraient rien sans Bach ou Little Richard qui les ont précédés, ou qui a précédé Bernard Minet ? Personne. En fait, lui, il a été vraiment le précurseur. L'idée, c'est de dire qu'il y a un déroulé chronologique. Alors, ça peut paraître terriblement hegelien. Clara, vous voyez ce que ça veut dire, hegelien, c'est que l'histoire aurait un sens. Eh bien, aujourd'hui, on vit peut-être la fin de l'histoire. Et c'est pas qu'une histoire de post-moderne. C'est que prenons l'exemple de Moriarty. Leur son vient de beaucoup plus loin que des groupes qui les ont précédés. Il remonte au blues du Bayou, le swamp blues, le blues originel de la Nouvelle-Orléans, qui date carrément du XVIIIe siècle, où l'on entend les chants indiens se mêler aux chants des esclaves africains. Hier, j'évoquais brièvement l'associationnisme de Hume, pour qui une pensée naît de celle qui la précède et en engendre une nouvelle. Étudier une pensée de manière isolée sans tenir compte du contexte serait une stupidité. Il en est de même pour la musique. La pratique musicale induite par Internet aujourd'hui nous fait remonter par association et nous transforme en saumon électrique. Aujourd'hui, les musiciens ont le luxe inouï, s'ils n'aiment pas leurs prédécesseurs directs, de remonter plus haut pour choisir une autre source d'inspiration. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je choisis ma source, même si elle est loin dans le passé. Je m'en inspire et je trace une nouvelle voie. Et ben, c'est ça que fait Moriarty. Leur musique évolue tout en gardant tous les éléments qui la caractérisent. Le blues du Bayou est la matrice de toutes les musiques américaines, du folk au jazz en passant par la country. Après un précédent album de reprise où Moriarty rend hommage aux anciens Woody Guthrie et Hank Williams, ils prennent la flèche et la lancent plus loin, dans la même direction, oui, dans le cul de Guillaume Maurice qui est à Grenoble en ce moment et qui nous écoute avec attention. Bien sûr,
mais ça fait mal en plus.
Cette voix si particulière de Rosemary Stanley rend possible cette aventure sonique à la fois très roots et terriblement moderne. Rosemary a un timbre unique, reconnaissable entre mille, un chant des années 30 avec du Billy Holiday dans sa voix, dans cette manière de ne pas vibrer ou juste au dernier moment et de conclure par un petit étranglement sec. Il y a une distance naturelle qui rend l'émotion plus palpable, une classe folle, une façon d'observer le monde à travers des yeux mi-clos, un mystère, une inaccessibilité qui rend la conquête de Rosemary plus désirable. Vous l'avez compris, je suis amoureux de la voix de Rosemary Stanley, comme de la voix de Madeleine Perroux, comme de la voix de Camélia...
On a compris que ça, André, hein.
Comme de la voix de Camélia Jordana, comme de la voix de Billie Holiday. Elles sont des frangines, des sœurs de voix. Si le titre de leur album est Epitaph, Moriarty signe là une de ses odes les plus joyeuses et s'aventure dans les danses des morts. Retour vers le futur pour être la baseline de cette aventure. Ils vont chercher dans la mythologie de Robert Johnson, ce bluesman qui avait vendu son âme au diable. Le thème de Faust existe chez Goethe, mais il existe aussi chez les anciens du Bayou. Bulgakov, Milena Jesenka, l'amante impossible de Franz Kafka, l'esprit vaudou, le grand esprit des Indiens, l'animisme africain, la plainte pentatonique des pionniers irlandais, les Français exilés du Canada, il y a tout ça dans la musique de Moriarty.
The good becomes the bad. Long live evil.
Vous écoutiez Moriarty sur France Inter, Long Live the Devil. Longue vie au diable, bien évidemment. Et là, c'est mon dieu de la chanson, qui est toujours avec nous. C'était à l'époque de Si tu écoutes, j'annule tout. C'était Bernard Minet.
On déconne l'actualité avec Bernard Minet, qui publie Ma vie de folie aux éditions Mareuil. Et avec vous, Bernard, un sujet sur la Russie, tiens, parce que nous ne reculons pas devant les sujets géopolitiques. Et j'ai entendu dire que c'est vous qui avez formé Bernard Guetta, notre spécialiste géopolitique sur la chaîne. Donc on va voir ensemble l'usine à troll du Kremlin. C'est un article de Libération aujourd'hui. Des centaines d'employés à la botte de Poutine déversent des kilomètres de commentaires et de blogs sur Internet. C'est une usine moderne de la propagande.
Пожарский город Миронович простите перекат. Ну вот ски господин.
Ты ски раконт?
Plutôt que retourner dans l'enfer soviétique, lui
pouda.
Moi aussi.
Vous osez dire que la Russie est un enfer? Vous n'avez pas honte? Voyons, la Russie c'est votre grande et belle patrie. Vous devriez vous sentir fiers tous les deux d'appartenir à ce puissant phare de la civilisation qui guide, qui illumine et qui quoi?
À rien. Monsieur le maire, ici, vous êtes dans une dépendance de l'Église. Et dans tout ce qui touche à l'Église, on ne fait pas de propagande politique.
Vous n'en avez pas fait, vous, non? Ces deux-là sont des renégats, d'ignobles traîtres. Je viens d'aller chercher demain matin. La Zvidani.
Voilà, donc Camillo. Oui, tout à fait. Donc Camillo, donc dans Libération, le Kremlin invente l'usine à troll. Je vous conseille cet article, assez fascinant. Il y a des cybersoldats au service de la propagande du Kremlin qui s'affairent sur les réseaux sociaux et les sites de la presse étrangère, notamment CNN ou The Guardian. Ces trolls, j'imagine vous savez bien ce que c'est qu'un troll. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Bernard Minet?
Ah oui, ça fait longtemps.
Alors, si vous êtes victime de trolls, sachez qu'il y a des usines à trolls en Russie pour la propagande de Poutine. Vous êtes victime, vous, de trolls?
Pas trop, non. Des fois, il y en a qui viennent déconner un peu, mais pas trop, ça va. J'ai pas à me plaindre. Mais c'est pas étonnant. Moi, je suis pas étonné, vraiment. C'est une petite gentillette chose, ça.
Et puis... Mais ici, ce sont des trolls gentils, parce que le troll sur Internet, en général, c'est quelqu'un qui vient pour dire du mal.
Oui, alors, la définition du troll que j'avais noté, que j'ai perdu, c'est le fait de poster des messages tendancieux pour créer une polémique, effectivement. Oui, mais alors là, c'est-à-dire qu'ils arrivent à 9h du matin et le retard est sanctionné par une amende. Ils sont des centaines et leur job, full-time job, c'est de faire
de la propagande, en fait.
Exactement, ouais, ou de faire de la propagande anti-occidentale.
Mais excusez-moi, il y en a plein. Et les restaurateurs, ils font ça aussi toute la journée.
Sauf que là, on est dans un niveau de décervelisation, puisque ces trolls ont comme mission, par exemple, sur la tuerie de Charlie Hebdo, l'une des tâches était formulée comme ça, je cite, « exprimer un rapport négatif vis-à-vis des terroristes qui ont fusillé des gens à Paris ». Donc il faut donc que ce soit notifié, on les prévient.
Ils ont une charte, quoi,
ça voulait dire. Voilà, c'est ça. Mais il faut s'indigner donc du terrorisme, etc. On est à un niveau de robotisation avec les consignes.
Au niveau industriel.
Voilà, c'est ça.
Mais vous avez raison, ça existe aussi à tous les niveaux, même personnel, si vous êtes sur Twitter ou sur Facebook.
Ah oui, des faux comptes, vous l'avez entendu, bien sûr.
Et puis dans la restauration, il doit y avoir une sacrée bataille. Mais enfin, là, au niveau de Poutine, ça c'est.
C'est parce qu'il y a des sites, en tout cas dans la restauration, qui dominent le truc et que vous regardez d'abord là si les gens ont dit du bien. Et quand on dit du mal d'un petit restaurant, eh bien ça peut lui faire
un gros préjudice. De toute façon, les trolls peuvent se ranger parce que nous, on est avec Bioman.
C'est vrai.
Bernard Minet.
Voilà, moitié homme, moitié robot.
Voilà,
la moitié robot.
Nous voilà arrivés à mi-chemin de ce florilège. On quitte malheureusement Bernard Minet, mais on va très bientôt retrouver Marie Gillin. Avant cela, nous allons croiser la route de Guillaume Meurice, l'homme que l'on surnomme également le dérapage contrôlé dans l'équipe. Cette fois, il était en duplex de Grenoble et il essayait de régler un problème diplomatique causé par l'un de nos autres chroniqueurs.
Guillaume Meurice, est-ce que vous êtes toujours à Grenoble?
Pour le clash.
Oui,
je suis toujours à Grenoble.
Vous m'entendez, Guillaume? Oui, notre envoyé spécial.
Je vous entends. M'entendez-vous?
Oui, très bien. Merci. On a lâché les vachettes, vous pouvez y aller.
Très bien. Top à la vachette. Je vous regarde en vidéo, figurez-vous, sur franceinter.fr.
Bonjour.
Et ouais, et vous êtes hyper beau. Ouais, vous êtes beau.
Qui en particulier?
Parce que vous êtes loin. Plus vous êtes loin, plus vous êtes beau. Alors, écoutez, Charline et Alex, moi, j'ai regardé les audiences de notre émission. C'est pas mal. Mais on peut faire mieux. On doit faire mieux. Et je sais ce qui nous manque. Il nous manque du buzz. Il nous faut du clash, quoi. OK? Donc, regardez avant. Quand un débile disait n'importe quoi, ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, Booba fait la une de tous les journaux. Voilà,
ouais,
c'est ça. Vous avez compris ou pas?
Ouais,
là, j'ai clashé Booba, là, par exemple. Et ben, c'est ça qu'il faut faire. Alors, pas forcément avec Booba, hein. C'est pas la peine de jouer au con avec lui. Non, vous allez perdre. Bam! Allez, double clash. Bim! Allez, bon, j'arrête. Hein, parce que clash chez Booba, bon, moi j'ai pas fait de muscu depuis au moins 34 ans, donc je vais pas m'y risquer. Non, moi ce que je vous propose, c'est de servir du clash entre notre collègue Thomas VDB et Télé Grenoble. Alors, petit rappel, Thomas VDB, c'est l'inventeur de l'actualisique, hein, celui qu'on surnomme le petit prince du jingle. Il est l'auteur d'une chronique diffusée dans notre émission, dont voici un extrait.
Télé Grenoble, c'est aussi la chaîne du sport et des grands événements sportifs qui ont marqué l'histoire de Grenoble, évidemment. Je pense par exemple aux Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Je pense surtout aux Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Et bien sûr, pour les fans du ballon rond, hein, on sait qu'ils sont nombreux. Et bien, Télé Grenoble, c'est la chaîne foot par excellence, grâce à qui on a pu assister à des matchs d'exception. Je pense notamment au fameux 6-4 que le Football Club de Grenoble a mis à l'Olympique Football Club de Champs-Rousses en 2004. Voilà, dois-je rappeler que Télé Grenoble, c'est aussi évidemment une des premières chaînes à avoir proposé du porno à ses abonnés, même s'il s'agit exclusivement de porno grenoblois. Hein, je pense à des films comme Deux salopes sur un télésiège, ou bien évidemment le mémorable Viens me bouffer la tartiflette.
Voilà, alors j'ai pas fait de télésiège à Grenoble, hein, je vous le dis tout de suite. Alors c'est une chronique où il raille la chaîne de la capitale de l'Isère, une chronique qui a laissé des traces au sein de la rédaction de cette chaîne. Je me suis donc rendu sur place ce matin et j'ai rencontré le rédacteur en chef de Télé Grenoble, Thibault Leduc, pour lui poser quelques questions. Alors attention là, c'est exclu, clash, gros buzz, son avis sur la chronique de Thomas VDB.
Moi j'ai trouvé ça très très petit, quand on a des origines belges, on est né à Abbeville, qu'on a donc grandi en Picardie et qu'en plus on a fait ses études en Indre-et-Loire, de se moquer comme ça de la province.
Bam, clash, vous avez vu ça, ça c'est du buzz. Direct, Thibault Leduc balance sur les origines de Thomas VDB. C'est bien, c'est un bon début. Alors, il faut dire que la chronique de Thomas a également laissé des traces chez les auditeurs de France Inter à Grenoble.
Alors, on peut dire qu'il a fait l'unanimité contre lui auprès des auditeurs grenoblois de France Inter. Ils sont tous descendus dans la rue. On a les images, on les a comptées. C'était 17 ce jour-là. 17 auditeurs qui ont tous réclamé le départ de Thomas VDB. Ils voulaient le remplacer par Cyril Hanouna.
Allez, il clash même France Inter, Thibaut. C'est du très très lourd. Parce que c'est vrai que Cyril Hanouna sur France Inter, ce serait un peu comme François Fillon au congrès des clowns de France. Bim, allez, clash Cyril Hanouna et François Fillon au passage. Bam, bam, c'est du buzz. Bon, alors, l'étape, calmez-vous Dupont-Mono, calmez-vous, je suis un professionnel. L'étape d'après dans le clash, hein, dans la recherche du buzz, c'est l'action en justice. Alors, est-ce que c'est prévu?
Alors, j'ai entendu dire que Thomas VDB avait des petits problèmes financier depuis un mois à cause de la grève à France Inter, donc on va pas en plus lui infliger des dommages intérêts et des frais de justice, on va être fair play sur ce coup-là, on va le laisser tranquille.
Oui, mais non, il faut du clash, il faut du buzz, il faut vraiment à un moment donné que vous le menaciez de mort ou des choses comme ça, il faut qu'on fasse de l'audience.
C'est vrai, alors on a en projet peut-être de mettre une antenne de Télé Grenoble à Paris, un des chroniqueurs de l'antenne, et de le harceler au maximum.
Ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu léger. Moi, je m'attendais à mieux, surtout quand il a dit, on a en projet de mettre une antenne de télé, et là, j'imaginais déjà Thomas empalé sur l'antenne, ça aurait été beau, ça aurait été clash, ça aurait été du buzz. Un petit manque d'ambition, ou un léger complexe d'infériorité, pourtant, il se passe des choses sur Télé Grenoble.
Ah non, on est une petite télé de province, mais on a eu la chance, il y a un an.
Ne dites pas ça, il faut vous vendre. Il faut faire de l'audience maintenant. C'est la chasse aux scoops, au buzz.
C'est vrai, partout en France, on peut écouter Télé Grenoble, nous regarder également, donc il faut que j'en profite. On a eu la chance d'avoir un scoop international l'an dernier. On a été la première chaîne française à retransmettre en direct l'arrivée des petits hommes verts à Grenoble. C'était en mars.
Ah, alors là, ça devient intéressant. Il y aurait donc pas mal de drogue dans la rédaction de Télé Grenoble. Ça, c'est bon, c'est très bon pour le buzz.
C'était en mars, j'ai pas compris.
Non, mais en fait, voilà, je vais vous expliquer. Il parlait des écologistes, des verts qui dirigent la ville.
Mais oui.
Eh ben ouais.
Parce que petits hommes verts et Mars, c'est voilà, moi j'ai cru. Mais bon.
Oui, il y avait une blackounette. Elle est toujours sur le coup, Charline. C'est bien. Non, mais ça nous était sorti de la tête que les écolos dirigeaient la ville. Pour nous, les écolos, c'était surtout Jean-Vincent Placé, un mec aux dents longues et qui défend les castors. C'était facile à retenir. Bam, allez, j'ai clashé Jean-Vincent Placé aussi. Bam, bam. Ça, c'est du buzz, les gars. Bon, vous allez voir, les audiences vont monter. Alors, pour les audiences, faut aussi du sexe, hein, bien sûr. Et Thomas VDB avait également présenté Télé Grenoble comme une chaîne diffuseuse de porno. Alors, a-t-il dit vrai?
Effectivement, avant de faire sa chronique, il a enquêté, parce que Télé Grenoble a été une des premières chaînes locales en France à s'intéresser au porno, un secteur porteur, comme tout le monde le sait. Chez nous, par exemple, le JT s'appelle le Cap Info, l'émission politique s'appelle le Récap, et on avait décidé d'appeler cette émission porno Cap Hot.
Excellent jeu de mots. On dirait un titre du journal Libération. Eh oui, c'est pas moi là. On dirait un titre de Libé, vous savez, le journal de gauche du milliardaire Rothschild. Bim, allez, je clash Libé au passage. Allez, ça c'est cadeau. Bon, concluons avec Thibault Leduc. A-t-il un dernier mot pour Thomas VDB?
Pour essayer de faire la paix avec lui, on peut dire que ça fait un certain temps que je l'écoute, avec beaucoup de plaisir, à la radio. Et Thomas, je peux te le dire, c'est très sincère, tu n'as jamais été aussi bon sur l'antenne de France Inter que ces trois dernières semaines.
Ah, allez, les trois semaines où il n'était pas là à cause de la grève. Bien joué Thibaut, ça c'est du clash. Thomas VDB va-t-il se relever? On attend avec impatience sa réponse, comme j'attends celle de tous les bolosses que j'ai clashés durant cette chronique. Bam, ça c'est du buzz. Vous voyez Alex et Charline, c'est comme ça qu'on fait de l'audience. Vous avez pigé le truc?
Ah,
N'oubliez pas les fondamentaux, hein. Et rappelez-vous toujours que nous vivons dans un monde où Jean-Marc Morandini a une carte de presse. I'm
êtes sur France Inter dans les florilèges de Par Jupiter, et si tu écoutes J'annule tout, on écoutait Frankie Valli and the Four Seasons avec Begin, je t'en supplie, en bon français, et voici venir une actrice que j'ai suppliée également.
Salut les amis.
Salut Charline.
Moi j'ai une de ces patates.
Ah bah les jours de manif, t'as tout le temps la patate. Ouais.
D'ailleurs, le colis est arrivé.
Oh, un cadeau, génial.
Non, c'est mon colis, c'est mon colis.
Silence, oui. On est dans un bureau, il y en a qui bossent.
Oh, Alex. C'est Marie-Gilles, hein, l'invité.
Ah bah oui, voilà. Cherche pas, il prépare que quand l'invité est joli.
Ouais, voilà. Surtout ne le dérangez pas, parce que pour une fois qu'il bosse... Bon allez, mon colis.
Voilà, c'est quoi?
Tada. C'est un mégaphone.
Oh génial, c'est mon rêve. Attends, je te le prends.
Non, c'est à moi.
Allez.
Génial.
Arrêtez de faire du boucan, c'est insupportable, ok? Non mais c'est vrai, il a raison. Tiens, allez, donne-moi ça. Non, si c'est pour passer des commandes de café, c'est pas la peine.
Ça y est, c'est un test.
Mais non, il y a pas de test. Un porte-voix, c'est fait pour la révolution. Voilà, écoute ça.
Valse, tu dois nous calculer.
Ouais.
Sinon, nous, on va t'enfermer.
Non, arrêtez, on va faire une mauvaise émission parce que vous n'aurez rien préparé.
Oh,
il est amoureux.
Ouais,
regardez, donne-moi ce truc-là.
Non, rends-le-moi.
C'est confisqué, votre truc.
C'est
confisqué. Oh là là. Boulot, je vous donne 20 minutes pour lire la presse et puis c'est conférence de rédaction.
C'était le mien. Vous savez quoi? On devrait inviter plus souvent des filles canons.
Bah, silence!
D'accord.
Comment ça marche, oui, ce truc-là?
Faut pousser sur le bouton, là.
Silence!
Ouais, d'accord.
Oh. Un, deux. Marie, je t'aime!
Ah oui, ça marche. Deuxième partie de ces florilèges, donc, avec Marie Gillin, qui était venue nous voir en 2016 pour nous parler de la pièce de Nick Payne, Constellation. Et ça lui va très bien, cette pièce, parce que, vous voyez, pour moi, Marie Gillin, c'est plus qu'une étoile, c'est une galaxie de... J'en fais trop? Non. Non, non. On n'en fait jamais trop, avec Marie Gillin.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter?
Marie Gillin qui est avec nous, qui aborde la générale de la pièce Constellation de Nick Payne. C'est au théâtre du Petit Saint-Martin. Nick Payne qui est un jeune auteur londonien. Jeune, il est né en 84, dites donc. C'est une pièce qui a été jouée avec beaucoup de succès à Londres et puis à Broadway. Vous commencez à jouer donc demain. Une histoire d'amour entre une physicienne et un apiculteur. Une pièce qui nous parle de l'infini que chaque être porte en soi. Il doit y avoir une portée philosophique, c'est ça l'idée?
Oui, oui, oui. c'est une rencontre amoureuse, mais c'est vrai qu'il y a le thème de la physique quantique derrière tout ça. Qui est pas du tout ennuyeux, mais qui est passionnant parce qu'on part du principe que on ferait pas partie d'un univers, mais ce qu'on appelle un multivers où finalement chaque décision qu'on prend va orienter nos futurs et donc c'est ce petit fond.
Ça doit être hyper stressant d'attaquer une pièce qu'on a eu le Molière pour la précédente. Moi, je serais pas à l'aise si j'étais.
Salaud, c'est ce que je me dis tous les jours, salaud.
Après, il va vous proposer un câlin normalement.
Vous pouvez l'assassiner à coup de mégaphone si vous voulez. Marie-Gilet, je vous le prête. D'ailleurs, ce que vous venez de dire, se révèle aussi dans l'écriture du texte, si j'ai bien compris. Le système de scène se répète et induit des variations qui fait que chaque variation fait changer la situation. C'est un peu ça dans l'écriture, il y a ce...
Oui, il y a donc plusieurs grandes séquences de la rencontre de ce couple. Donc il y a la rencontre, la jalousie, le mariage, les retrouvailles, la maladie, enfin voilà, plusieurs éléments importants. Et à chaque fois, c'est comme si on était dans une séquence cinématographique où on rejoue la même prise mais avec une réplique qui change. Quelquefois, ça change du tout au tout.
C'est génial, c'est comme un solo de jazz en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on cherche un petit peu, donc on a trois notes, et puis après ces trois notes-là, elles vont commencer un petit peu à évoluer, et puis on les reprend, et puis, et puis on n'arrête pas de chercher. C'est un peu comme moi quand je parle, si vous voulez, c'est-à-dire que je fais des boucles, en même temps, je ne sais pas du tout où je vais, mais par contre, il y a des petites variations.
Ça reste suspendu,
fois.
Donc et du peut-être... coup, on est intéressé.
Et ben voilà.
Oui, mais on comprend quelque chose à la pièce quand même.
Oui, oui,
c'est pas comme André, je veux dire. Rassurons les spectateurs.
J'invite André à venir. Non, on comprend bien sûr, mais c'est le langage de la pièce, c'est mystérieux et à la fois c'est profondément humain, parce que ce qui compte dans cette histoire, c'est cet homme, cette femme, leur rencontre et à quel point ils sont pleins de vie face à l'infiniment de possibilités devant eux.
Ce qui est fabuleux, c'est d'avoir une perception presque physique de ce qu'est la physique quantique, parce que c'est compliqué. On parle souvent du chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et à la fois mort. On parle d'être dans deux états différents. Or là, avec votre pièce, on va peut-être avoir une perception, je dirais presque matérielle, de ce que c'est qu'au fond un phénomène quantique, cette boucle qui se répète avec toutes ses possibilités.
Oui, puis l'idée que finalement il n'y a pas de passé, de présent et de futur, mais c'est comme si tout ça c'était un espèce de grand cake et que on avait des réalités qui étaient des tranches de cake. Enfin, c'est très belle, je
pense. La tranche de cake vous-même, déjà, Marie. Hein.
Allez voir la tranche de cake de Marie Gillin.
Ça s'appelle
hyper glam.
Vous êtes sur France Inter en compagnie de Marie Gillin. Restez avec nous, surtout, jusqu'à 18h. Ne partez pas. On va aborder le premier sujet avec vous, Marie. 200 lycées et plusieurs campus universitaires sont bloqués. Une partie de la jeunesse ne lâche rien de la contestation contre la loi de travail. Voilà. Leurs grands-parents ont fait mai 68, donc ils ont essayé un petit peu de les raisonner.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Et vous n'allez pas tarder à rester sur le carreau, je vous le dis. Parce que de là, vous êtes en vacances, très bien. Mais à la rentrée.
On n'est pas en bac.
Bon, ok, admettons. Vous avez fait une année sabbatique, très bien. Mais l'année prochaine. Vous avez pensé à ça l'année prochaine? C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Alors, la guitare, les troubadours, tout ça, c'est fini.
C'est Jean Dujardin dans OSS 117. Donc les lycéens et les étudiants sont dans la rue aujourd'hui avec des slogans comme « Ils nous empêchent de rêver, on va les empêcher de dormir », avec des slogans comme « On va travailler plus pour gagner moins ». Marie Gillin, à leur âge, vous étiez déjà actrice. Vous connaissiez déjà le succès. Est-ce que vous vous sentez pour autant déconnectée de ces inquiétudes et de la contestation? Ou vous les observez quand même, et puis vous êtes maman, donc vous avez aussi des inquiétudes pour la jeunesse.
Oui, bien sûr. Bah, oui, moi j'ai commencé, j'étais très vite propulsée dans un monde d'adultes, et voilà, ça a été plutôt... je suis rentrée un peu par la grande porte, donc le monde du travail, je l'ai perçu d'une façon un peu différente. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, oui, étant, en tant que qu'individu, en tant que citoyenne de France, même si je suis belge, et maman, bien sûr que ça me préoccupe complètement.
Et dans votre secteur, est-ce que vous percevez un petit peu la précarisation du travail, par exemple dans les métiers qui vous entourent, les maquilleurs et maquilleuses, les techniciens, etc. Vous passez beaucoup de temps avec eux, donc est-ce qu'ils parlent de ces choses-là? Est-ce que c'est un sujet de conversation quand on fait des tournages ou des pièces de théâtre?
On dit que vous parlez très peu aux maquilleuses. Hein, que vous...
Ça revient mais régulièrement. Je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai aucun contact avec elles. j'ai l'impression que c'est un peu le système, en tout cas, même de production des films, qui est de plus en plus précaire, où on est toujours en train de se dire qu'on a quand même de la chance de faire ce métier, parce que c'est quand même des métiers un peu à part, des métiers ludiques, mais où, oui, il y a bien sûr une forme de précarité, c'est
mais
évident.
Même vous, en tant que comédienne, c'est-à-dire qu'il y a eu une angoisse, un moment, qu'il y a un trou, qu'on vous veuille plus.
Je sens venir la grosse blague.
Non, pas du tout, pas du tout. Alors, de temps en temps, alors c'est difficile à repérer, je pose une question. Mais
On vous fera signe quand c'est le cas.
En l'occurrence, c'était celle-ci, je vais lever la main droite.
Fait la même tête, on peut pas se
faire. Ouais, attention, c'est la question sérieuse.
Attention. Non, mais pour dire que oui, il y a des passages à vide dans les carrières de comédiens. Et donc, on attend que le téléphone sonne.
Ah, ben bien sûr, oui. Ce métier, c'est ça. C'est un peu les montagnes russes. Il faut avoir le cœur bien accroché. À la fois. Moi, je fais partie de ces gens qui ont quand même la chance de vivre de leur métier et de faire des choix. Et donc, je me sens pas.
Faire des choix est un luxe.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'on n'est pas toujours celui qu'on choisit. Je me rappelle dans l'APA, la réplique de mon personnage qui disait « Je suis jamais celle qui cherche ». Ben, c'est un petit peu ça. C'est une question de timing. Et puis, c'est pas qu'une question de talent. C'est une question de moment. Et encore plus le cinéma parce que le théâtre, c'est pas qu'une question de photogénie. Mais le cinéma, il faut être là quand on vous attend.
Ça, c'est quantique, ce que vous venez de dire.
Ouh là là.
C'est un peu comme un cake, en fait.
Déjà dans son personnage de physicienne dans Constellation.
Je vois une comédienne quantique, donc c'est pour ça que je suis en admiration.
Marie-Gillin, on va aborder le deuxième sujet avec vous. Screening Room est un projet à l'étude pour permettre au public de regarder les films à la maison dès le jour de la sortie du film en salle. C'est une idée du cofondateur de Napster, vous savez, ce site de piratage de musique qui a fini par fermer. Voilà le résultat qui s'annonce dans les salles de cinéma.
Bah alors Marco, qu'est-ce qui se passe? On est samedi soir, il n'y a personne dans ta boîte.
Ah ouais, il n'y a personne. Mais ça, c'est le rentring, quoi.
C'est quoi ça, le rentring?
Le rentring, c'est la nouvelle tendance, quoi. C'est genre les gens qui kiffaient venir en boîte de nuit, maintenant, leur kiff, c'est rentrer chez eux, quoi.
Ah, mais dis donc, c'est pas bon pour les affaires, ça, hein.
Ah, non, je fais avec, hein, mais regarde, ouais, effectivement.
C'est vide.
Ouais.
Et on y trouve où les adeptes du rentring?
Fatalement, c'est chez eux. Ou alors, en chemin, quand ils vont, chez eux, quoi.
Bon, j'ai plus qu'à me rentrer, moi, alors.
Ouais.
Un clip réalisé par une agence de pub qui s'appelle La Chose et qui a pressenti il y a quelques années le rentring. On est en plein dedans quand même. Le site spécialisé dans les technologies qui s'appelle Presse Citron, parce que nous consultons également la presse technologique pointue scientifique de niche. Alors, je vous explique le système de ce screening room. Via une box vendue $150, il y aura possibilité de regarder les films en streaming chez soi, une seule fois,
streaming,
dès la sortie, pour $50 par film. Marie Gillin, au secours ou pourquoi pas dans ces cas-là?
Alors, ce que je comprends pas très bien, c'est que une fois d'accord, mais s'ils peuvent filmer le film en direct, du coup.
Alors non, il y a un accord à ce moment-là. Le projet intéresse apparemment quelques ayants droit. D'après le magazine américain Variety, des studios comme Universal, Fox ou Sony étudient déjà les termes d'un arrangement. Donc, ce serait un film en excellente qualité.
Oui, mais je veux dire, le piratage est possible. Si quelqu'un a une petite caméra chez lui, il peut filmer cette version.
Alors, ça, c'est que les gardes-fous sont là.
Moi, je trouve que c'est déjà en salle. J'ai pas un avis incroyable là-dessus, mais je trouve que déjà, je trouve ça bien que les gens voient les films. Après, c'est vrai que c'est triste. Moi, j'adore les salles de cinéma. Mais s'ils préfèrent le voir dans une autre condition, mais qu'ils le voient quand même,
Parce qu'il
n'y
a pas déjà deux publics. Un public qui va au cinéma et un public qui regarde chez lui des films sur des écrans.
J'ai pas l'impression que même les gens qui vont au cinéma vont quand même... Bon, il y a le noyau dur des gens qui rentrent toujours au cinéma, mais pécho, les gens vont quand même moins au cinéma, quand même, malgré tout.
Oui, il y a déjà une baisse de fréquentation des salles.
J'ai pas les chiffres.
Ouais, moi non plus, mais...
Mais donc, du moment que le film est vu, par exemple, le film qu'on pourra voir en salle le 23 mars, Mirage d'amour avec fanfare, du Bertoin, on pourra vous voir avec Jean-François Stévenin, ça se passe dans le désert d'Atacama.
Dans les années 20,
sous la dictature, il y a une histoire d'amour évidemment, mais aussi de résistance. Tout ça, c'est quand même tellement plus joli sur grand écran, j'imagine que ça, c'est vraiment le type de film. Est-ce qu'il y a des types de films qui sont plus... Peut-être à voir sur grand écran comme celui Mirage d'amour.
Bien sûr, c'est sûr que Mirage d'amour, c'est filmé dans le désert d'Atacama, donc des paysages incroyables. Ça donne un souffle romanesque à l'histoire.
Le désert d'Atacama sur le home cinéma, ça va être un petit peu restreint.
Ouais, tout dépend l'écran qu'on a chez soi. La seule chose à laquelle je pense là, c'est que je pense qu'aujourd'hui, pour certains films, c'est déjà difficile de sortir en salle. Il y a des films pour lesquels c'est plutôt peinard, tapis rouge, gros distributeurs, etc. Mais par exemple, dans notre cas, Mirage d'amour avec fanfare, qui est un magnifique film, on a heureusement trouvé un super distributeur, mais c'est difficile de sortir en salle. Donc au final, entre une sortie, genre la savonnette, là, on essaye de sortir alors qu'il y a des blockbusters et toutes sortes de films en concurrence, et finalement avoir peut-être une visibilité autre sur un support numérique. Pourquoi pas? Enfin, je suis ni pour ni très contre, j'en sais rien en fait.
non, mais si, vous avez mis un avis qui est tout à fait clair, Marie-Gilles.
Ok, bien d'accord.
Sûr. Ouais, si. Allez, dernier sujet, c'est la semaine de la langue française. Cette fucking semaine de la langue française où il faut bouter hors de la langue tous ces fucking anglicismes.
Et pour employer un mot, j'ose à peine le dire, mais je ne sais pas comment on le dit en français, mais Jacques Toubon me corrigera. Je vais profiter du fait qu'il n'écoute pas. C'est le marketing. Donc j'ai rien dit là. Vous pensez que sur un simple fait, le design qui... Oh,
pardon. Si, c'est officiel, c'est admis.
Ah bon?
Enfin, ça, on peut dire...
Allez-y. On peut dire quoi?
Non, la stylique.
La stylique.
Allez-y. Mais de toute façon, le design, ça existe.
Bon, alors la stylique. Quand vous pensez qu'il y a dans la seule entreprise Sony japonaise... Autant de, comment dit-on, stylikmen, de stylicien.
Ah, les deux Jacques, le grand, le petit, Chirac, tout bon. Alors, c'est la semaine de la langue française, le français est planétaire, mais le français parlé à Paris s'impose de toute sa norme sur la planète, même si c'est un peu moins le cas maintenant, mais on sent toujours ce poids. Hein. C'est pas le cas de l'anglais de Londres, qui n'est pas forcément imposé en Inde ou en Australie. Vous, Marie Gillin, est-ce que ça vous agace un petit peu cette norme, où vous avez justement une petite poussée par fois de belgicisme que vous avez envie d'imposer?
Oui, moi j'adore dire passe-moi un peu la lavette qu'on essuie le suc impalpable, par exemple.
Et qu'on peut traduire comme... Oui.
Eh bien, passe-moi donc la serpillière pour essuyer le sucre glace.
Voilà.
Le sucre impalpable. Donc, moi, j'adore sucre dans le belgicisme. Il y a plein d'envolées lyriques comme ça.
Voilà. Et le particularisme est considéré comme très familier, mais c'est tellement joli. Hein, pourquoi ne pas l'affirmer à partir... Ouais. Si vous jouiez votre place constellation avec plein de belgicisme.
J'ai déjà essayé de la jouer en français.
voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet.
Là, on a été complet.
Là, on a été totalement complet. Vous en avez une petite dernière, non?
Sur la langue française?
Moi, je sais pas. De liégisme, non?
Passez à la parole à moi, parce que le sketch, il y a du liégisme, évidemment. En fin d'émission, Marie Gillin, on fait un sketch avec l'invité s'il accepte. Et vous ne pouvez pas refuser, évidemment, d'être la chef de la police de Liège.
Car... Avec l'accent, alors?
C'est comme vous voulez, mais on attend beaucoup de vous. Bernard Cazeneuve, qui bosse beaucoup avec les polices belges en ce moment, le ministre Guillaume Meurice, va gérer le problème et vient nous en parler. En avant, moi aussi je suis flic liégeois, mais c'est vous la chef.
Ami liégeois, l'heure est grave et la République française compte sur votre acuité et votre intelligence.
Oufti, cause bien le français.
Moi, j'ai rien compris, patron.
Bah, l'acuité, c'est d'être quelqu'un qui a beaucoup bu.
Ouais, mais il vous connaissait pas avant, pourtant.
Et dans le cadre de notre enquête binationale...
Binationale, c'est qu'à deux nationalités, patron.
Oui, je suis liégeoise, hein, mais quand même.
Je voudrais que vous soyez vigilant et que vous vérifiez tous les casiers.
Ça, on fait depuis longtemps, monsieur le ministre.
C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien.
On vérifie les casiers de Jupiler, les casiers du Verbe.
Et je ne veux pas que se reproduisent les événements de Bruxelles.
Alors, ça risque pas, ça.
Oh non, les bruxellaires, ils sont biesses. Ils sont encore plus biaises que les Parisiens.
Pardon ?
Non, continuez.
Bon, sachez qu'en France, on aura envoyé tout le GIGN et pas 6 policiers avec des pistolets à eau.
Ah, moi, j'aime bien les pistolets à eau.
C'est très pratique, hein, contre les voyous quand ils ouvrent le feu.
Écoutez, l'heure n'est pas à la plaisanterie, s'il vous plaît.
À Liège, on ne plaisante pas, c'est la ville des frères d'Ardennes.
Oui. Et vous conseillez quoi, monsieur le ministre ?
Des barrages filtrants, un état d'urgence et BFM TV à tous les coins de rue.
C'est quoi ça, BFM TV ?
C'est mieux que la police. Ils savent tout et quand ils savent pas, ils inventent.
Oufti, on n'a pas ça en Belgique.
Une civilisation évoluée est une civilisation qui a BFM TV.
Quel beau slogan!
Bon, écoutez, je crois que c'est la fin de ce sketch.
Ah non, monsieur le ministre, il faut une chute.
Je vous rappelle qu'à Bruxelles, les gars se sont enfouis par les toits.
Et alors?
Ah, c'est moi.
Ben oui,
ils sont pas tombés.
Mais alors?
Ben donc, il n'y a pas de chute.
Eh bien voilà, on s'était bien amusé avec Marie Gillin en chef de la police liégeoise. Et rares sont les femmes qui ont encore du charme quand elles font l'accent liégeois. J'embrasse toutes les liégeoises que j'aime et que j'adore, évidemment. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, bah, si je vous le donne pas, vous allez vous plaindre. Vous allez dire, oui, mais il manque la chanson de Frédéric Fromet. Bah oui, bah, je l'ai en magasin, bien sûr. Alors c'est pas pour toutes les oreilles, mais c'est maintenant.
Alors, dans un an pile poil se tiendra la Coupe du Monde de foot au Qatar.
Ah.
Alors en exclusivité pour Jupiclass, j'en ai fait une comptine. Promenons-nous à Doha, les droits humains y en a pas. Combien d'ouvriers crèvent sur les chantiers pour que Mbappé tire à côté. 1000 ouvriers, 2000 ouvriers, 3000 ouvriers, 4000 ouvriers, 5000 ouvriers, 6000 ouvriers. On peut pas les compter sur les Doha. Promenons-nous à Doha, les Belges perdront encore une fois et ils pourront pas jouer les victimes, se plaindre du climat, car y aura la clim. 40 degrés dehors, 15 degrés sur la pelouse, l'écologie on s'en fout, même pas peur de se faire taper sur les doigts. Qui a Doha? Qui a Doha? Qui a Doha? Oups, pardon. Promenons-nous à Doha, en croisant fort les Doha, pour qu'on trouve pas des histoires de corruption. Car à la FIFA, on a l'amour du ballon, et quand même aussi des pétrodollars. 1 million par-ci, 2 millions par-là, 3 millions par-ci, 4 millions par-là. C'est mon petit Doha qui me dit. Toi, toi, mon Doha. Toi, toi, où le fric est roi. Toi, toi, mon Doha. Oups, pardon. Promenons-nous à Doha, en nous en mordant les Doha. Cette compète, ma boule, ce n'est pas gagné. Pour qu'elle se déroule, les Doha dans le nez. Un jeu de mots par-ci, juste un Doha. Un jeu de mots par-là, sans se brûler les Doha. Je les connais tous sur le bout des Doha. J'ai mis le Doha dans un engrenage. Promenons-nous à Doha, sans bouger le petit Doha. Dans cette contrée, avec la charia, il faut pas charrier, sinon gare à toi. Tu bois de l'alcool, 40 coups de fouet, tu es homosexuel, 100 coups de fouet. Tu es une femme, tu peux la fermer. Je vois d'ici les Qataris hilar nous faire un gros Doha.
Et voilà, c'est fini de se promenons-nous dans Par Jupiter et dans Si tu écoutes, je nulle tout. Parce que ça recommence demain, évidemment, les florilèges. Je me suis encore plongé dans la malle au trésor et les invités de demain, Daniel Prévost et Mathilde Amé.
J'ai un peu l'impression que tous les jours, je place une actrice dont je suis amoureux. Ça va finir par se voir. Bon, vous dites rien. À demain.